Isabelle Mitty, bonjour.
Bonjour.
Vous nous proposez une grande enquête sur le cinéma nazi en Allemagne entre 1933 et 1945 dans les actrices du Troisième Reich, Splendeur et Misère, des icônes du Hollywood nazi. Alors vous parlez en effet dans votre livre du Hollywood nazi, car pour Hitler, alors je l'ai appris dans votre livre, hein, qui était un féru de cinéma, et pour Goebbels, qui mettait en scène la propagande nazie, c'était une référence, le Hollywood américain, et l'objectif était donc aussi de concurrencer l'industrie cinématographique américaine.
Oui, tout à fait. Les classiques du régime, donc à commencer par Hitler et Goebbels, sont absolument férus de cinéma hollywoodien, ainsi que le public, en fait. Donc Hitler, par exemple, se gave littéralement de cinéma donc avant 1933. À partir de 1933, la chancellerie au Berghof, dans sa résidence des Alpes bavaroises. Il adore le cinéma hollywoodien, il adore les comédies, il adore les films de Mickey. D'ailleurs, Goebbels, pour son anniversaire, lui offre des films de Mickey, ce qui fait énormément plaisir à Hitler. Il adore Laurel et Hardy, il adore des films également réalisés par des juifs et dans lesquels jouent des juifs. Il adore Autant n'importe le vent, c'est un grand fan de Clark Gable. À partir de 1939, c'est le temps qui lui manque. C'est Goebbels, lui, qui va prendre véritablement la suite, bon, sachant qu'il a déjà bien réorganisé le cinéma. Et Goebbels cultive la même passion pour le cinéma hollywoodien, donc ce sera toujours Hollywood comme un rapport d'amour-haine, comme une référence à la fois honni et admiré. Et le public lui-même est absolument un grand admirateur des stars hollywoodiennes. Les films hollywoodiens continueront à circuler sous le Troisième Reich jusqu'en 1940, avant d'être interdits, avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1941. Donc on va essayer de faire un cinéma allemand qui soit à la hauteur du cinéma hollywoodien, aussi dans une sorte de guerre culturelle contre Hollywood, mais aussi pour donner au public ce dont il est friand, des stars, des comédies, des mélodrames, des grands sentiments, des grandes émotions.
Effectivement, ce qui passe à travers ce cinéma, ce n'est pas uniquement de l'idéologie, on veut aussi plaire au public allemand et essayer de le faire sortir de son quotidien.
Exactement. C'est une arme de distraction massive qu'on va utiliser pour acheter le consentement de la population, lui donner l'illusion que finalement pas grand-chose n'a changé, en tout cas pour les catégories de population qui ne sont pas touchées par les persécutions. Et comme c'est un média qui touche les masses par les émotions qu'il véhicule, on va également instrumentaliser ce cinéma pour faire passer des messages de propagande, mais pas de manière trop transparente. Parce que Goebbels est bien conscient dès 1933 que si la propagande est trop visible au cinéma, le public ne vient pas. Le public ne vient pas au cinéma pour voir des uniformes, des SA, des croix gammées. Donc les références typiques au quotidien vont s'effacer progressivement après quelques essais qui vont faire des flops. Et on va revenir à des genres tout à fait classiques avec des stars qui seront des figures d'identification qui feront passer quelques messages, notamment sur la place dévolue à la femme, sur le rôle de l'individu dans la nation, mais le tout en passant par le divertissement, puisque le divertissement, comme le disait Goebbels, est la meilleure des propagandes.
Oui, effectivement, il va y avoir une distinction de fait entre les films et puis l'idéologie, sa place sera plus dans des documentaires, comme ceux, par exemple, de Leni Riefenstahl.
Exactement. Alors, on a longtemps réduit le cinéma de cette époque à quelques noms assez emblématiques, comme Leni Riefenstahl, qui a été effectivement la réalisatrice des grands documentaires de propagande sur le congrès de Nuremberg, sur les Jeux Olympiques, où elle, effectivement, magnifie le régime et où elle passe des messages idéologiques. Cela dit, effectivement, aussi le Juifsus, l'emblème des films antisémites en 1940, mais les films antisémites vont avoir une forte actualité à partir de la guerre, à partir de l'entrée en guerre, donc 39-41. Pour le reste, c'est du cinéma de divertissement qui va effectivement instiller quelques éléments de propagande, mais de manière assez douce, effectivement, pour ne pas faire fuir le public des cinémas.
Qui dit film dit actrice. On voit tout au long de votre livre Goebbels à la recherche de sa Garbo, la Garbo des nazis, ou la Dietrich, parce que ces deux grandes actrices elle avait quitté l'Allemagne.
Oui, Greta Garbo était partie bien plus tôt que Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, on a tendance à l'oublier, n'était déjà plus là en 1933. Elle est partie en 1930, avant la première de L'Ange Bleu, qui la révèle au grand public, qui en fait un mythe. Elle devient réellement un mythe ensuite aux États-Unis. Et c'est ce mythe Dietrich qui s'est véritablement épanoui aux États-Unis que les nazis veulent faire revenir, puisqu'il leur faut effectivement des divas dont le lustre, le glamour pourrait retomber sur le régime, donner un petit peu de charme à leur régime. Évidemment, pour Marlène Dietrich, il est hors de question de retourner dans cette Allemagne qui n'a plus rien à voir avec l'Allemagne de la République de Weimar qu'elle avait quittée. Ils vont s'acharner à la faire revenir. Elle va jouer au chat, à la souris avec eux. Et quand Goebbels et la UFA vont se rendre compte qu'elle ne reviendra définitivement pas, ils vont essayer de lui trouver un substitut en la personne d'une Suédoise comme Garbo, Sara Leander, chanteuse et actrice suédoise, déjà une vedette dans son pays, mais que vraiment la UFA sous la botte nazie va révéler comme la locomotive du cinéma du Troisième Reich.
La UFA étant la société cinématographique allemande. Quand on parle de Leander, effectivement, qui était suédoise, ce dont on se rend compte à la lecture de votre livre, c'est que peu de ces actrices étaient allemandes.
Exactement, et c'est un des grands paradoxes de ce cinéma qui est riche finalement en contradictions par rapport à l'idéologie du régime. Effectivement, on a un régime qui prône la pureté raciale, qui s'est débarrassé de ses artistes juifs, qui refuse les mélanges et qui en fait peuple son star system de stars masculines comme féminines étrangères qu'on va recruter aux quatre coins de l'Europe, des Suédoises, des Hongroises, des Tchèques, dont le grand amour de Goebbels, Lida Barova, alors que dans le même temps, en fait, on interdit, par exemple, pendant la guerre, les liaisons entre prisonniers de guerre slaves et allemandes. Goebbels, lui, ne s'est pas privé pour le faire avant même la guerre. On a des Autrichiennes aux racines balkaniques, on a des Hollandaises. Donc, comme si, finalement, le glamour du star system allemand ne pouvait pas se contenter de son purement germanique.
Et alors, vous nous proposez toute une galerie de ces actrices. Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi elles ont accepté d'être des vedettes du cinéma nazi alors que d'autres fuyaient, que les acteurs ou les metteurs en scène juifs devaient fuir aussi l'Allemagne. Comment elles s'en sont expliquées a posteriori ?
Il y a différents profils. Le profil le plus commun, c'est le profil opportuniste, représenté par Sara Leander, évidemment, par la Hongroise Marika Rock, qui était une grande star du film de revue et du film musical. Pour elle, signer un contrat à la UFA, qui était vraiment la mecque du cinéma européen, c'était le Graal. Donc, elles ne se sont pas posées beaucoup de questions. Elles étaient chouchoutées, elles avaient des salaires absolument mirobolants et elles ont signé un pacte faustien avec le régime. Et d'ailleurs, dans leurs autobiographies, elles ne se remettent pas beaucoup en question. Elles vont mettre en avant leur apolitisme, leur idiotie politique pour justifier le fait qu'effectivement, elles aient contribué à divertir les Allemands sous le Troisième Reich. D'autres auraient bien voulu partir, mais c'est difficile quand votre carrière est déjà lancée de tout recommencer ailleurs, surtout quand vous commencez vraiment à vous imposer, qu'on vous propose des films intéressants. Alors, ce sont elles qui, effectivement, sont les moins naïves dans leurs autobiographies, mais effectivement, la plupart ont continué à tracer leur route en se mettant dans leur bulle, alors d'exil intérieur pour celles qui étaient les plus conscientes, et sinon d'univers parallèle, de strass, de glamour, de paillettes et de succès pour celles qui ne se sont pas posées beaucoup de questions.
Et quel fut leur sort après 1945? On voit que certaines ont connu une carrière qui a duré jusqu'à leur mort.
Alors au sortir de la guerre, les plus compromises, les plus grandes stars, celles aussi qui ont fait quelques films de propagande, vont subir une petite traversée du désert, vont être des victimes expiatoires ou des boucs émissaires, notamment les étrangères, donc Sara Leander et Christina Söderbaum en Suède, Lida Barova en Tchécoslovaquie, qui est surnommée la putain du diable, c'était la maîtresse de Goebbels. Et puis, avec le temps qui passe, certaines vont réussir un comeback, on dirait aujourd'hui. Sara Leander va redevenir l'immense vedette qu'elle était, plus sur la scène qu'au cinéma, va devenir même une icône gay, c'est-à-dire qu'elle elle était déjà le porte-voix en quelque sorte des homosexuels sous le Troisième Reich, de manière cachée évidemment, mais ils se reconnaissaient dans ses chansons, bien sûr.
Pour le sort des homosexuels sous le Troisième Reich. Ouais.
Mais les chansons qu'elle chantait étaient érigées en hymne, déjà sous le Troisième Reich pour les homosexuels persécutés, sachant que son parolier favorisait favori était lui-même homosexuel. Et elle va devenir la Dalida allemande, en quelque sorte, ou la Judy Garland allemande de l'après-guerre. D'autres vont revenir par le biais du cinéma, comme Magda Schneider, la maman de Romy Schneider. D'autres vont revenir par le biais de téléfilms ou de séries à la télévision. Donc la majorité, après effectivement une petite période où elles ont dû se faire oublier, vont revenir par divers biais. Et le public était très content de retrouver ses idoles qui lui avaient apporté du réconfort, de la consolation pendant la guerre, à la télévision ou sur scène.
Merci Isabelle Mitty.
Merci à vous.